On a terminé la lettre aux Hébreux, qui est un formidable traité sur la supériorité de Jésus-Christ sur toute autre chose, sur toutes les autres religions, sur toutes les autres mêmes personnages ou grands prêtres, etc. Mais je vous renvoie à l'étude. Tony a fait une dernière étude qui résumait un peu tout ça. Mais la semaine dernière, il y a deux semaines, j'ai commencé une petite réflexion juste pour nous équiper un peu à savoir comment parler de notre foi. J'avais le privilège de faire un camp de randonnée avec des jeunes adultes entre 20 et 40 ans. Et chaque jour, on faisait une méditation et une petite étude biblique. Et fort de notre étude sur Hébreux, et de Hébreux 11 notamment, j'avais choisi de parler de la foi. Pourquoi est-ce qu'on peut être sûr de notre foi? Et ce qui est intéressant, et sans doute parmi nous, il y a des personnes qui se posent des questions sur pourquoi seulement le christianisme? Pourquoi seulement Jésus? Et c'est un jeune homme qui m'a dit, c'est bien quand on marche, on a un peu de communion fraternelle, on peut parler. Et il me disait, Pierre, j'ai une question, mais je ne sais pas si j'ose te la poser. J'ai dit, les seules mauvaises questions, c'est celles qu'on ne pose pas. Et il m'a dit, en fait, ça va peut-être te choquer, mais j'ai rencontré des bouddhistes pendant notre voyage de noces, ils venaient de se marier au Népal, et ils étaient tellement gentils. Ils avaient tellement l'air d'avoir la paix, ça m'a remis en question et je me suis dit, mais au fait, pourquoi est-ce qu'on est si sûr de notre foi chrétienne? Et j'ai dit, c'est une question excellente, Alexis, et on a mis cette question à l'ordre du jour de la seconde, de la prochaine étude biblique qu'on a faite, et on a dit, voilà. Si quelqu'un vous dit pourquoi est-ce que les bouddhistes ont tort, pourquoi seul le christianisme est une foi valable, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous en êtes convaincu d'abord? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Mais je crois que c'est important, ce sont des questions fondamentales. Et souvent, les chrétiens qui n'ont pas eu l'audace de se poser ces questions brutalement, sont un peu démunis pour répondre. Et je disais, vous n'allez pas dire que vous êtes chrétien parce que votre arrière-grand-père était pasteur et que on vous envoyait quand vous étiez petit dans un camp de vacances chrétien. Ça peut susciter une foi d'enfant, mais il faut que votre foi, elle devienne solide et vous devez être capable d'affronter les questions, de vous les poser vous-même pour que votre foi elle devienne réelle. Alors, pourquoi est-ce que le christianisme, la foi chrétienne, est la vraie? C'est une vaste question, bien sûr. Et on l'a réduite à deux questions. Pourquoi la Bible? Pourquoi Jésus? Histoire d'avoir quelque chose de concentré. Et donc, la dernière fois, on a regardé en quoi la Bible était unique. Mais d'abord, j'avais introduit l'étude en disant que la foi chrétienne a une dynamique unique. Toutes les autres religions, ce sont les hommes qui essayent d'aller vers Dieu par leurs bonnes actions, par leurs efforts à oublier le monde réel, à s'élever au-dessus des contingences humaines. Ça, c'est les bouddhistes. Ils essayent d'atteindre un niveau où ils se détachent du monde. La religion chrétienne est la seule où c'est Dieu qui vient parler aux hommes. C'est l'infini qui vient toucher le fini. L'islam, qui est en fait basé sur le christianisme, Mohammed a été élevé dans la foi chrétienne ou dans un environnement de connaissance et de doctrine chrétienne. Malheureusement, souvent les chrétiens sont les plus mauvais ambassadeurs de Christ. Et c'est pareil pour le Mahatma Gandhi en Inde. Lui aussi avait été très proche de Jésus à un moment, mais voyant les chrétiens et voyant les souffrances qu'ils s'infligeaient les uns les autres, il s'est aussi détaché. Mais l'infini qui vient vers le fini, ça peut marcher, ça marche, parce que l'infini est tout puissant. Par contre, le fini qui essaye de s'ouvrir vers l'infini, c'est voué à l'échec. Il y a une différence d'échelle et de capacité qui fait que l'homme, avec tous ses efforts, il peut se faire une image de Dieu, il peut essayer de se donner des règles de vie, il va tomber dans le légalisme, etc. La foi chrétienne, c'est Dieu qui vient s'incarner, qui vient parler aux hommes. C'est aussi la foi qui s'accorde le mieux avec ce que l'on voit, ce que l'on peut observer. L'accord de la vision du monde chrétien avec la réalité qui nous entoure, c'est un argument très fort. Pourquoi ? Parce qu'elle donne une explication logique, satisfaisante pour l'esprit, pour l'intelligence humaine, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Elle nous déclare que nous avons été créés à l'image de Dieu, mais que nous sommes déchus, que nous sommes tombés dans le péché. Et ça peut rendre compte à la fois du meilleur qu'on peut voir en l'homme, les grands actes caritatifs, les découvertes scientifiques, les progrès technologiques, toutes ces choses-là, elles ne sont pas surprenantes dans le fait qu'en fait on a été créés à l'image de Dieu. Et le péché qui affecte la race humaine explique pourquoi il y a des attentats, pourquoi il y a des meurtres, pourquoi il y a des viols. C'est la seule qui donne une vision qui correspond à la réalité telle qu'on la ressent autour de nous. Les bouddhistes, c'est très bien, mais eux, ils pensent qu'ils vont se réincarner peut-être en une petite fourmi et qu'il faut laisser la petite fourmi souffrir si elle est blessée parce qu'elle vit son karma. Et que de suite, de karma en karma, un jour, ils atteindront le nirvana, la perfection. Donc, cette idée de dynamique de Dieu vers l'homme, cette idée que le christianisme est en accord avec ce que l'on constate. Tous, on voit du bien et on voit beaucoup de mal autour de nous. Il n'y a pas d'autre explication logique, consistante, dans aucune autre religion. Et puis, on a une autre chose sur laquelle je n'ai pas insisté, je n'ai même pas mentionné vraiment, c'est le concept de la grâce de Dieu. Ça aussi, ça n'existe dans aucune autre religion. Dans toutes les autres religions, c'est l'homme qui essaye de respecter des lois par ses œuvres, par ses actes. Mais l'idée qu'on puisse échouer, qu'on puisse commettre des péchés, tout en restant aimé par Dieu et tout en étant accepté dans le bien-aimé, c'est quelque chose de fantastique pour nous tous. La grâce de Dieu, on peut être des pécheurs, mais Dieu nous aime malgré nos péchés. Il veut que nous venions à lui. Il a pris, la foi chrétienne explique qu'il a pris le châtiment à notre place. Il a versé son sang, lui qui était parfait, à notre place et pour être en accord, accepté, aimé, avoir une éternité en la présence de Dieu de félicité, tout ce qu'il nous faut, c'est de lui faire confiance, de croire que ce qu'il nous dit est vrai, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et que si nous l'acceptons tel quel, il devient et nous le suivons, il devient notre maître et il est notre sauveur. Ce concept de grâce, c'est totalement absent d'aucune autre religion. Si vous en connaissez, je vous dis des choses. allez voir d'abord dans la Bible, mais dites-moi si vous pensez à telle religion qui a un concept de grâce où l'homme est pardonné malgré son péché. C'est pour ça que la plupart des religions ne sont jamais en paix, parce qu'on ne sait jamais combien de bien il faut faire pour être accepté par Dieu. Et si vous demandez à un musulman ou à d'autres à des membres d'autres religions s'ils ont la paix de savoir qu'ils sont acceptés, qu'ils vivront pour toujours avec Dieu, ils sont incapables d'avoir cette certitude. Parce qu'ils pensent toujours que il faut faire plus. Mais si on est sauvé par la quantité de bonnes actions que l'on fait, quelle est la limite? Quel est le dosage? Et il n'y a que la foi chrétienne qui répond. Donc la dynamique, le fait de l'accord, la grâce de Dieu, et enfin la semaine dernière on a parlé de la Bible pour montrer qu'elle est un livre absolument unique, que c'est un livre qui a une harmonie incroyable. Je vous invite à écouter le message, mais juste un bref rappel. Il y a une harmonie parce qu'il y a un seul thème, c'est Jésus-Christ, Dieu qui vient réconcilier les hommes à lui-même. Sa diffusion, le livre le plus diffusé sur la planète. Alors j'avais cité quelques chiffres, je vous invite à plutôt aller rechercher en ligne, sur Internet. Vous verrez, essayez de voir les plus récents, mais c'est loin devant l'islam et le Coran. Le seul qui résiste en ce moment, qui devient très populaire, et c'est une triste réflexion sur notre société, c'est le catalogue IKEA. Traduit en 80 langues, je ne sais pas combien, et qui est diffusé à très grands exemplaires. C'est presque une anecdote parce que IKEA est là aujourd'hui et je ne sais pas s'ils seront là dans 100 ans. Je leur souhaite. Peut-être qu'il y en aura même un qui viendra à Nice finalement. Mais voilà, donc la Bible, elle est unique par le nombre de traductions. Plus de 2800 langues ont la Bible ou des parties de la Bible. Elle est unique dans sa durée. Elle a commencé à être écrite 1500 ans avant notre ère. Sa transmission, le nombre de copies, le temps entre les événements et la date où les récits ont été faits, la façon dont elle a résisté aux persécutions, aux critiques. Et puis un autre point sur lequel on a insisté, c'est l'enseignement de la Bible qui est authentifié par les prophéties. Là aussi, c'est un phénomène unique à la foi chrétienne. Le nombre incroyable de prophéties qui ont été réalisées ou qui restent à réaliser. Je vous renvoie encore à cette étude. Son exactitude historique, lorsqu'elle parle d'histoire, elle ne dit pas n'importe quoi. Son exactitude scientifique, ce n'est pas un traité de science, mais chaque fois qu'elle parle de phénomènes scientifiques, elle s'est révélée être exacte. On a parlé des courants, elle parlait des courants dans la mer avant que Humboldt et d'autres chercheurs réalisent en fait qu'il y avait des grands courants qui faisaient partir de l'eau du sud de l'Amérique vers le nord de l'Europe, etc. Tous ces courants, ils étaient déjà décrits dans la Bible, pas en détail scientifique. Le fait que la Terre était ronde, que c'était un cercle posé dans l'espace, c'est une sphère, c'était dans Ésaïe. Toutes ces choses montrent l'exactitude lorsque la Bible, qui est un recueil de livres de différents styles, ça peut être de la poésie, de l'histoire, de la science aussi, par passage, mais à chaque fois elle est juste ou elle se révèle être vérifiée ultérieurement. Et puis son influence a été fantastique. Dans l'histoire du monde occidental et du monde entier. Voilà, donc, le christianisme, il se caractérise par sa dynamique, cet accord avec ce que l'on voit autour de nous, par ce livre incroyable qu'est la Bible, qui est comme signé, authentifié par des prophéties et qui nous mène à croire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je sais que dans ma vie, c'est un peu comme ça que j'ai procédé dans ma foi. J'ai un arrière-plan scientifique. Donc lorsqu'on me disait « la Bible dit cela, la Bible dit ceci », je dis « c'est très bien, mais pourquoi est-ce que je croirais la Bible plus qu'un autre livre religieux ?» J'ai regardé un peu et j'ai trouvé ces explications. J'ai regardé en détail et ça m'a convaincu que la Bible était vraiment unique et qu'elle était digne d'étude. Alors après, le pas de dire « c'est vraiment la parole de Dieu », ça vient en la lisant, en voyant, et il y a aussi un témoignage interne. Mais ça, c'est juste un peu pourquoi la Bible est-elle si spéciale. Aujourd'hui, j'aimerais, et c'est, je me sens vraiment démuni, pourquoi Jésus ? En quoi est-il spécial ? Alors, encore une fois, je vous renvoie à notre étude sur Hébreux et à toute la Bible, bien sûr. Mais je veux aborder cela d'un point de vue un peu externe. Parce que souvent, les chrétiens font du raisonnement circulaire en disant « la Bible dit que Jésus est vrai, donc Jésus est vrai ». Et on dit « pourquoi est-ce que la Bible est vraie ?» Et les gens disent « mais vous dites que... » C'est vrai parce que c'est dit dans la Bible, et la Bible est vraie parce que c'est... Et on tourne un peu en rond. Donc j'aimerais regarder quelques aspects de Jésus. On va citer la Bible, mais encore une fois, c'est plus... Je voudrais vous donner des outils un peu lorsque vous parlez avec votre famille, des collègues au travail, avec vos enfants qui vous posent des questions... L'Église est là pour vous aider, mais vous devez être à même de maîtriser un peu ces sujets. Et on va donc voir qu'est-ce qui est si formidable avec Jésus. Prions. Seigneur, c'est un peu ambitieux comme sujet à traiter en quelques minutes, Seigneur, mais tu veux nous équiper, tu veux nous apprendre à défendre notre foi. Tu veux qu'on soit toujours prêt à donner une raison de notre espérance avec douceur et logique, Seigneur. Et je prie que tu m'aides à communiquer quelques principes qui nous permettent, Seigneur, de tenir bon lorsque notre foi est attaquée ou lorsque nous voulons partager le grand Dieu que tu es avec ceux qui nous entourent et qui sont perdus dans l'immensité de l'existence, des planètes, de l'histoire, du temps, qui voient des souffrances ici-bas et qui n'ont pas d'espoir. Seigneur, aide-nous à être des témoins fidèles. Amen. Encore une fois, ce sont des éléments, mais par exemple, le film qui a été regardé par le plus de monde dans l'histoire du cinéma, c'est le film Jésus. Il a été traduit plus de 80 langues, et il est disponible, on en a des copies, si jamais vous en voulez, vous pouvez voir le film Jésus produit par Campus pour Christ, mais qui a été... Et ça nous dit que c'est un sujet qui intéresse aux contemporains. Même s'ils refusent de le reconnaître comme Dieu, alors, dans les bonnes circonstances, vous pouvez offrir un film, un DVD, ou proposer de le voir. Mais la première chose qu'il faut se poser, c'est la première question plutôt qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a vraiment existé ? Ou est-ce que c'est une légende comme un personnage comme Astérix et Obélix, ou il y avait Jésus-X ? Et beaucoup de gens mettent en doute sa réalité. Quand on va sur les campus avec James et maintenant avec Rodlan, on a souvent un questionnaire qu'on utilise et on demande aux gens est-ce qu'ils pensent que Jésus était un personnage historique. Et certains disent non. Ils croient que c'était seulement quelque chose qui a été inventé par une association basée à Rome, avec un grand chef là-bas, et puis que ça s'est répandu. Mais en fait, chaque fois que vous signez un chèque, chaque fois que vous mettez une date sur une lettre que vous envoyez à un ami, ou lorsque vous laissez Google, Gmail, mettre la date du jour sur votre email, vous reconnaissez qu'il y a un personnage important qui est né il y a 2017 années de ça. Chaque date est une référence à la naissance de cet homme. Alors on sait qu'il y a sans doute un décalage de quelques années, mais peu importe, l'idée c'est que nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. Maintenant on dit de notre ère, pour éviter le mot de Jésus-Christ. Il y a des historiens non chrétiens, parce que là, on ne veut pas faire le raisonnement. Il est dit dans la Bible que Jésus a vraiment existé. Donc, il a vraiment existé parce que je crois que... Non, il y a des gens de l'extérieur qui n'étaient pas chrétiens, des historiens. En 52, il y avait un homme qui s'appelait Thalès. Alors, je vous rassure, ce n'est pas celui qui a fait le théorème qui vous a embêté en 6e. Mais il a écrit une histoire du monde de la Méditerranée en 3 volumes. Et il a parlé de Jésus crucifié. Il a même essayé d'expliquer le fait qu'il y a eu une éclipse qui est décrite dans Luc, verset 44 de Luc 23. Et puis, il a été cité par d'autres. Donc, il y avait des gens qui avaient entendu parler de ce Jésus crucifié. Il y avait un autre gouverneur romain qui, en l'an 112, s'appelait Pline. Il y avait Pline l'Ancien et Pline le Jeune. Là, c'était Pline le Jeune qui a mentionné aussi Jésus et ses disciples. Il voulait même des conseils pour savoir auprès de l'Empire, de l'Empereur, comment il devait agir avec ces chrétiens et qui croyaient en ce Christ qui était mort et ressuscité. Et puis, un autre historien bien connu, romain, Tacite, qui a écrit aussi au début du deuxième siècle et qui a parlé de ces gens qui s'appelaient communément des chrétiens et qui étaient nommés après un certain Christus qui avait été exécuté par les mains du procurateur Pontius Pilate sous le règne de Tibère. Donc ça, c'est des sources externes qui font référence qu'à l'époque, on savait qu'il y avait un personnage historique. C'était pas Obélix, c'était pas Astérix, c'était pas Jésus X, c'était Jésus Christ, Christus. Et puis le meilleur rapport, certains d'entre vous, je sais, ont lu les récits de ce Flavius Joseph, qui était un général juif, qui connaissait bien la guerre et qui a décrit le siège de Jérusalem en 70. Et il décrivait Jésus de la façon suivante. À cette époque, il y avait un certain Jésus, un homme sage, s'il est permis de l'appeler un homme, parce qu'il accomplissait des miracles. Et il enseignait les gens qui recevaient son enseignement avec plaisir, avec joie. Il avait attiré à lui beaucoup de juifs et beaucoup de païens. Il était le Christ. Et quand Pilate l'a condamné à la croix, ceux qui l'aimaient ne l'ont pas oublié. Il leur est apparu vivant le troisième jour, comme les prophètes divins l'avaient prédit, et des milliers d'autres choses merveilleuses à son sujet. Et la tribu des chrétiens, nommée après lui, n'est pas encore éteinte à ce jour. Donc quelqu'un qui voyait l'Église qui commençait, qui avait vu Christ crucifié, et qu'en fait il continuait. Ça, il écrivait ça au début, si j'ai bien noté, oui, c'était pendant le premier siècle, quelques 20-30 ans après la mort de Christ. Donc ça, c'est, ça nous dit que il était aussi historique, il a vraiment existé, réellement existé, comme aujourd'hui, vous ne mettez pas en doute qu'il y a un génie qui s'appelait Einstein, qui est vécu, soit mort en 1956, qui a eu un empereur français qui s'appelait Napoléon, qui a eu un roi qui s'appelait Louis XIV, qui a un général qui a pris le pouvoir en 58 et a créé la Ve République, le général de Gaulle. Pour vous, si vous ne mettez pas en question sa réalité historique. Donc ça, c'est un fait. Vous pouvez dire aux gens, il y a un personnage historique qui a fait des déclarations incroyables et il a vraiment existé. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui était-il? On est d'accord qu'il a vécu, mais il y a plusieurs options, peut-être quatre options. Tout d'abord, c'était un homme plein de bonté et de compassion. C'était un homme bon, un homme bien. Et la plupart des gens sont prêts, s'ils croient à son historicité, à reconnaître que oui, c'était quelqu'un de très bien. Il voulait aider les gens qui souffraient, il voulait corriger les injustices. Il voulait amener la paix, il voulait amener la joie pour remplacer l'insécurité, la tristesse. Un peu comme l'abbé Pierre, qui voulait donner un logement à tous les pauvres, comme Mère Teresa qui prenait soin des malades. Une personne pleine de bonté. Ça correspond à lui, mais ça, c'est seulement un aspect de la personnalité de Christ. Parce qu'à côté de ces choses qui sont généralement admises comme quelque chose de bien, de valable, qu'on doit émuler, il a dit des choses, il a fait des choses que les gens pleins de bonté n'ont pas la capacité de faire, ou n'ont pas le toupet d'annoncer. Il a dit des choses, on l'a vu marcher sur l'eau, il a guéri, il y a des témoins qui ont raconté qu'il a guéri des malades, des centaines de malades, il a même calmé des tempêtes, il a ressuscité des gens, mais il a dit des choses qui sont assez folles, comme: si vous croyez en moi, vous allez vivre pour toujours. Où je suis le seul chemin qui mène à Dieu. Il a dit que toute la puissance, tout le pouvoir dans l'univers lui avait été donné. Il a même dit qu'il avait toujours existé. Il a même mis au défi les gens qui étaient contre lui, qu'il attaquait, de trouver un seul péché dans sa vie et n'arrivait pas à le faire. Si vous pensez à notre abbé Pierre et à notre mère Teresa, s'ils nous avaient déclaré qu'ils ont toujours existé, on aurait dit, ça ne va pas la tête. S'ils avaient dit qu'ils étaient capables de pardonner nos péchés, on aurait dit, il est bien gentil, qu'il continue de donner du pain et des logements aux pauvres, mais ils sont dérangés. Et même les grands enseignants religieux de l'histoire, les Confucius, les Bouddhas, les Socrates, Mohamed, n'ont jamais prétendu être Dieu. C'était pas seulement un homme bon. On pourrait même penser, donc c'était la première hypothèse, c'était un homme bon. Mais on voit que ça ne tient pas vraiment la route parce qu'il a fait des choses, il a dit des choses qui font qu'on peut se poser d'autres questions. Est-ce que c'était un fou ? Comme le gars qui met sa main dans sa veste et qui dit je suis Napoléon. C'est moi Napoléon. On dit, il est dérangé. Et on peut penser qu'il était, c'était quelqu'un de dérangé. Mais si on regarde les pièces à conviction, on voit que son comportement, son caractère était tout sauf quelqu'un qui est complètement givré, comme on dirait aujourd'hui. Il montrait de la patience, il était bon avec les enfants, il avait la capacité de garder le contrôle de lui-même, sauf pour sa colère dans le temple, mais c'était une colère justifiée. Il répondait toujours aux cris des gens qui voulaient de l'aide. Ça, c'est une première chose. Il n'avait pas le caractère d'un fou. Son enseignement est aussi montre que c'était loin d'être un fou. C'était cohérent, ça parlait de grands sujets comme la vie, la mort, il y avait des directives pour vivre la vie qui étaient illustrées par des images très fortes et très parlantes, ce qu'on appelait les paraboles. Il y avait une profondeur, une perception des choses qui est pas celle d'un fou. On peut juger aussi de la folie d'un homme dans le cadre de ses relations avec les autres. Et c'était un fils loyal envers ses parents humains. C'était un ami fidèle. C'était un dirigeant qui n'avait aucune peur. Et puis il avait des capacités hors du commun. Dans les débats publics, il avait toujours la main, il gagnait toujours les débats avec les grands orateurs de l'époque, il savait les remettre à leur place, il savait avec logique détruire les arguments contraires qu'on lui opposait, il était à l'aise avec tous les gens les niveaux de la société, avec les pauvres veuves, avec le gouverneur de l'empire, de la région où il vivait, avec Pilate, le procurateur. Et on sentait qu'il était conscient de sa grandeur, mais jamais sans un grain d'orgueil ou de folie. Donc l'idée que c'était un fou, ça ne tient pas la route non plus. Une autre option, c'est qu'en fait, c'était... La troisième option, ce serait que c'était un imposteur. Il savait qu'il mentait, mais il aimait tromper les gens en leur faisant croire certains messages. Je ne sais pas si vous avez déjà été en présence de quelqu'un qui raconte des bobards. Mais c'est surprenant. Ils peuvent le faire avec un tel aplomb. Comme on dit, on leur donne le bon Dieu sans confession, on les croit sur parole. Quelques années, dans l'église, on avait une personne comme ça qui a causé beaucoup de tort, qui pouvait mentir comme il respirait en donnant des éléments qui avaient l'air vraiment solides. Mais c'était pas le cas de Jésus. On peut penser qu'il y avait quelques imbéciles à l'époque, mais pendant toute sa vie, et surtout les 3 années où il a eu un ministère public, jamais on n'a pu le mettre en cause. Découvrir des inconsistances entre ce qu'il disait et ce qu'il vivait. Toute cette pureté morale, sa compassion, son empathie, ses enseignements, c'est pas de, les trucs de quelqu'un qui manipule les autres. Il n'y a pas une seule évidence, seule preuve qu'il ait fait ça dans un but d'enrichissement personnel. On sait qu'il est, il a vécu pauvre toute sa vie. Il a dû emprunter, on a dû emprunter une tombe pour lui à sa mort. Et donc ces options, elles tiennent pas la route. Donc si c'était pas seulement un homme bon, si c'était pas un fou, si c'était pas un menteur, nous devons vraiment regarder l'option de ce qu'il déclarait lui-même. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il était en fait l'homme Dieu. Dieu qui s'était fait homme. Alors certains essayent de trouver un passage où il dit « Je suis Dieu », mais en fait, plein de passages parlent du fait qu'il a... Il y a Thomas qui disait « Mon Seigneur et mon Dieu », Pierre qui disait « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il a annoncé qu'il était Dieu. Tous les hommes reconnaissent qu'il a eu un impact fantastique. Quelqu'un disait, il est né dans un village obscur, le fils d'une femme paysanne, il a grandi dans un autre village, il a travaillé là-bas dans une échoppe de charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans. Pendant 3 ans, il est devenu un prédicateur itinérant. Il n'a jamais écrit un seul livre. Il n'a jamais eu une position officielle. Il n'a jamais eu de famille Il n'a jamais été chef d'une famille, il n'est pas marié, il n'a jamais possédé une maison, il n'est pas allé à l'université, il n'avait jamais visité une grande métropole à part la capitale de Jérusalem, et c'était pas comme Corinthe ou Rome. Il n'a jamais voyagé plus de 200-300 kilomètres en Palestine, de l'endroit où il était né. Et là, il n'a fait aucune des choses qu'on associe normalement avec la grandeur. Et ses seules références, c'était lui-même. Il avait seulement 33 ans lorsque l'opinion publique s'est tournée contre lui, ses amis se sont enfuis, il a été attaché, cloué à une croix entre deux voleurs. Pendant qu'il mourait, les soldats jouaient au dé, la seule propriété qu'il ait jamais eue sur la terre, sa tunique. Et puis, il y a 20 siècles qui se sont, 21 siècles bientôt, qui sont passés. Et aujourd'hui, c'est le personnage central de la race humaine. Toutes les armées qui ont pu exister, toutes les marines qui ont vogué sur les océans, tous les parlements, tous les rois qui ont régné, tout ça mis ensemble n'a jamais eu une influence plus grande sur la vie des hommes que cette vie solitaire qu'il a menée. Alors tout ça, ça ne prouve pas qu'il est Dieu, mais ça pose des questions. Et les gens qui l'approchaient ne disaient pas que c'était un fou, que c'était quelqu'un qui était dérangé, c'était pas quelqu'un qui manipulait les autres. Ils pensent qu'il était Dieu. Napoléon lui-même. J'ai enfin retrouvé le passage. C'est une conversation qui était rapportée dans un livre dont j'ai les coordonnées. Lui qui était un des hommes les plus puissants d'histoire, qui a à un moment donné avait conquis des continents. Il était chrétien. À la fin de sa vie, il disait, je crois que je comprends la nature humaine, je comprends quelque chose à la nature humaine, mais je peux vous dire qu'il n'y avait aucun homme qui ait vécu qui était comparable à Christ. Jésus-Christ était plus qu'un homme. Et il suit en décrivant l'incroyable autorité, l'influence qu'il a eue, le fait qu'il a fait ça sans armée, sans marine, juste en vivant une vie exemplaire. Il concluait, pour moi, ça prouve de façon convaincante la divinité de Jésus-Christ. Imaginez Emmanuel Macron disant « Je suis convaincu de la divinité de Jésus-Christ ». Président Hollande disant « J'ai enfin trouvé le Christ ». Napoléon l'a fait, alors il était en exil, etc. Mais c'est difficile d'imaginer que Dieu peut être à la fois une personne, un être qui est à la fois Dieu et qui est à la fois homme. Mais parce que ça dépasse notre entendement, ce n'est pas une raison pour rejeter cela. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, à réconcilier. En Autriche, cette semaine, j'étais logé dans une pension, parce qu'il y avait trop de monde, donc on commence à mettre les gens dans des pensions touristiques. Et la personne que je connais depuis pas mal d'années, chez qui je n'avais pas logé, m'avait logé dans la chambre numéro 7 de la Villa Waldheim. Et cette chambre, en fait, elle a été occupée, quand il venait en vacances, par un dénommé Erwin Schrödinger. Alors, pour le commun des mortels, ça ne dit pas grand-chose. Enfin, ceux qui n'ont pas fait des maths ou de la physique. Mais ça a été le prix Nobel de physique en 1933 pour ses travaux en mécanique quantique. Et j'ai dit à la dame, je me sens beaucoup plus intelligent après avoir passé quelques nuits dans le lit où Erwin Schrödinger, il est célèbre pour son équation de mécanique quantique. Il est aussi célèbre pour son illustration du chat qui peut être à la fois mort et vivant. Et l'idée, c'était que les particules électroniques peuvent avoir deux états en même temps. Et il a contribué à l'explication que la lumière est faite de particules, mais aussi qu'elle consiste aussi en des ondes. Et on dit soit c'est une particule, soit c'est une onde. Ou alors on peut imaginer que la particule se bouge en onde, mais on a du mal à réconcilier ça. Et pourtant, les preuves scientifiques, la logique, la mathématique soutiennent. Et de la même façon, le fait que Jésus soit à la fois homme et Dieu, ça défie notre intelligence. Et pourtant, tout nous conduit à le croire. Alors, il est intéressant aussi de regarder un autre point essentiel, c'est la résurrection. Lorsque vous parlez avec vos amis, vous pouvez leur parler de la résurrection. S'il était Dieu, ce n'est pas un problème, mais Paul disait dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication, ce qu'il faisait, son annonce est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous témoignons contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, s'il ne l'a pas fait, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, elle est inutile. Vous êtes aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. S'il n'y a pas eu de résurrection, c'est pour ça que le jour de Pâques est le plus beau jour pour les chrétiens. C'est le jour où on se rappelle qu'il est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection, tout s'effondre. Et si vous pouvez me prouver que la résurrection n'a pas eu lieu, alors je ferme la boutique, entre guillemets. C'est plus qu'une boutique. Vous le savez, je vais parler de façon un peu simple. Et je vais à la pêche le dimanche matin. Ce serait bien où je monte faire une randonnée en montagne. Mais s'il n'y a pas eu la résurrection, on est des hommes les plus à plaindre parce qu'on croit en quelque chose qui nous mène à vivre pour les autres, à aimer notre prochain, alors qu'on pourrait être bien égoïste, profiter de tout ce qu'on a sans le partager. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Alors certains disent qu'il n'est pas vraiment mort. C'est parce qu'il a été tellement frappé qu'il s'était évanoui et que dans la fraîcheur de la tombe, il a passé probablement 36 heures. Là, il est revenu à la vie, il s'est senti en forme. Il a pu enlever les 34 kilos d'épices qu'il avait emmaillotées autour de lui. Il a poussé la pierre énorme qui bougeait, que trois femmes ne pouvaient pas bouger. Il s'est battu contre les gardes qui gardaient la tombe. Il a marché des dizaines de kilomètres avec ses pieds qui avaient été un peu abîmés par des clous. Et puis il s'est présenté à ses disciples comme en pleine santé, le conquérant de la mort. On voit que ça ne marche pas. Il est vraiment mort. Alors l'autre idée, c'est que quelqu'un a enlevé le corps. La question, c'est qui a enlevé le corps? Si ce sont les autorités romaines, lorsqu'ils ont vu que les disciples commençaient à annoncer la résurrection de Christ, ils auraient pu dire, attendez, allez chercher le cadavre, là, on va le mettre en place centrale et on va leur dire, arrêtez vos sornettes, arrêtez vos histoires. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Ils l'auraient fait s'ils avaient, on peut être sûr qu'ils l'auraient fait s'ils avaient eu la possibilité. Donc on peut se demander, peut-être les disciples ont caché le corps, ils ont dit, on va dire qu'il est ressuscité. Toi, Pierre, tu vas être le chef du groupe. On va monter une petite affaire religieuse. Et 2000 ans plus tard, la petite affaire est toujours là. Mais quand on voit le récit qui est fait dans la Bible, mais aussi par les historiens externes, on voit qu'en fait, ils étaient complètement paniqués de peur, qu'ils se cachaient et qu'ils n'auraient jamais eu la capacité de cacher le corps dans un endroit tellement bien trouvé que personne n'aurait pu retrouver le corps. Et surtout, le fait qu'ils ont changé du tout au tout parce qu'ils avaient vu le Christ ressuscité, au lieu de se cacher de peur qu'on leur fasse subir le même sort, ils ont annoncé l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Christ à toute l'humanité de l'époque, à toute la région où ils habitaient, et même certains sont allés dans le monde entier. Et pendant les siècles, l'Église a ainsi grandi parce qu'il y a cette conviction, et il y a eu des témoins visibles à l'époque. Paul en parle. Il y a des gens qui auraient été capables de mettre en cause le récit qui est fait dans la Bible, qui était encore vivant si ça ne s'était pas passé. Et donc, la conclusion logique, c'est que oui, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et ça donne vraiment confiance que Jésus-Christ est qui il disait vraiment être. Un autre point, c'est à côté de... C'est ce que la Bible appelle le témoignage de son Esprit Saint. Romains 8, 16. Alors là, je reviens à la Bible. C'est difficile de ne pas utiliser la Bible lorsqu'on... Après l'étude de la dernière fois, on a vu que la Bible était un livre tellement unique, tellement digne de confiance. Mais Paul déclarait de Romains 8, 16, « L'Esprit, avec un grand E, le Saint-Esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cette conviction spirituelle, interne, émotionnelle, qui nous dit que nous appartenons à Dieu. C'est ce que la Bible appelle le témoignage du Saint-Esprit. Et ce témoignage, il est validé par les centaines de milliers, les millions de vies qui ont été transformées par les gens qui sont venus à Christ. Je vais me mettre au défi de me trouver quelqu'un parmi vos connaissances ou dans l'histoire qui vous dise « Je battais ma femme, je trichais au travail, je commettais l'adultère, mais je suis devenu athée et ma vie a été radicalement transformée. » Rappelez-vous de cet argument, parce que c'est puissant. Demandez à quelqu'un s'il connaît quelqu'un qui s'est converti à l'athéisme et dont la vie a été transformée pour le bien de ceux qui sont autour de lui, pour son propre bien. Mettez les gens en défi de vous trouver une seule personne. Le témoignage de la foi chrétienne, c'est les vies transformées. Et la question que nous posait ce jeune pendant la randonnée, j'ai vu des bouddhistes qui étaient plus gentils que des chrétiens, doit nous interpeller et nous dire que nous qui avons la vérité, nous devons la montrer par nos actes, par nos vies. Et pendant la conférence, on a, en Autriche, on a rappelé une très belle prière. Nous devons nous saturer de Jésus, nous devons le chercher lorsque nous lisons la parole, nous devons lui demander conseil, il peut nous guider, il peut nous parler par sa parole, par son Saint-Esprit. Il peut même parler par des rêves, il peut parler par des visions. Et la vie devient tout autre lorsqu'on est vraiment conscient de la réalité, de la puissance de Jésus-Christ dans nos vies. Et cette prière, c'était « Ô Jésus, sois pour moi une vivante et brillante réalité ». Plus présent par les yeux aiguisés de la foi qu'aucun objet extérieur que je puisse voir, plus près, plus intimement proche que même l'attachement terrestre le plus doux. C'est une prière qui a été reprise en hymne par Charlotte Elliott, mais qui avait été faite par le grand missionnaire Hudson Taylor en Chine. Jésus soit pour moi une vivante et brillante réalité. Comme les disciples sur la route d'Emmaüs, ça leur brûlait le cœur. Demandez, faites cette prière à Jésus. On nous a encouragés à la prier pour nous, à la prier pour les êtres chers qui sont autour de nous, à la prier pour nos amis qui sont croyants, à la prier pour ceux qui sont incroyants. Ô Jésus, sois pour... Vous nommez votre ami, soit pour notre Église, soit pour la ville de Nice, une vivante et brillante réalité. Amen. Prions. Seigneur, merci de ce que tu te laisses appréhender non seulement par l'esprit, mais aussi par la logique humaine. On a parlé des prophéties, on n'en a pas reparlé aujourd'hui, mais là aussi la logique doit s'incliner devant la réalité de ta divinité, devant ton amour, devant ton sacrifice à la croix par amour pour tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, leur absence de religion, Seigneur, tu es vivant. Tu es tellement prêt à répondre à nos vies, Seigneur, à nos appels. Tu es tellement prêt à nous utiliser pour répandre cette bonne nouvelle de ton amour autour de nous. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ta réalité, qu'elle soit brillante, qu'elle soit vivante dans nos cœurs. Jésus, sois vraiment pour nous une vivante et brillante réalité. Amen.